Voilà. Souriez, vous êtes filmé. Non, vous êtes enregistré. Souriez, vous êtes enregistré. Merci. Oui, on a conseillé à 19h30 de faire, on avait une présentation très intéressante d'hommage. Comme d'habitude, pas beaucoup de monde, mais sur le synchro, sur ce qui est fait, sur tous les problèmes de la nappe, sur le devenir de nos alimentations à nous. Mais bon, donc, je ne vous gêne pas, Thierry, merci. Allez, je vais commencer à l'appel. Frédéric Arnoul,
oui.
Gérard Bartoli,
oui.
Daniel Buzelli, Raoul Carta, Pascal Cour, Jean-Louis Galibert, Fabienne Boudinger, Christine Hugues, Loïc était à la manif, mais il est parti, il a laissé la procuration à Fred, Gérald, Marc Yosel, Jenny Loubet, Evelyne, Thierry Mazel, Clément Moineau, chez sa procure, Francis Nardi, Claudette Pagès, Michel Perronnet, Brigitte Prin, Georges Rayon, Gisèle Renaud-Brémor, Marc Royer, Patrick Romboul, Agnès Rondeau, Marc Royer, Catherine Ruiz. Ah oui, elle était là, elle est partie. Qui a laissé sa procure? Elle était à sa répétition, je ne sais pas quoi. À qui? À Daniel. Je l'ai vu, mais effectivement, on ne l'a pas. Sylvie Sognoz et Yves Vidal. Merci. Donc, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et 4 procures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Le compte est bon. Alors, donc l'approbation de la précédente séance, l'examen des observations, il n'y en a pas, je considère que ça vaut approbation. Merci, et on va tout de suite rentrer dans le point d'ordre du jour. Donc, j'ai quelques opérations, c'est moi. Transfert de propriété à titre gratuit de l'équipement de proximité appartement en Ouest-Provence au bénéfice de la commune. Alors, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas. Le limon avec la création de la métropole fait que tout ce qui re-rentre donc dans le domaine communal, ben on anticipe sur Ouest-Provence, on transfère en bâtiment communaux. En plus, une autre loi au-delà de la métropole a supprimé les SAN au 1er janvier, qui veut dire que même s'il n'y avait pas la métropole, on ne pourrait plus être des SAN, il n'y en a plus que 3 en France. On deviendrait une communauté d'agglo, ce qui veut dire que les investissements, ce qui est le cas pour le SAN, qui ne sont pas dans les compétences, la construction de nos écoles, les routes, etc., ne seraient plus possibles. Donc, on rapatrie nos bâtiments. Donc, pour Grance, nos bâtiments, nos lieux qui étaient sous financement possible SAN. Donc on a la gare routière, on a la cantine municipale, on a la crèche municipale et on a le steak park, le footy volé, toute la partie qui a été aménagée par Ouest-Provence, qui est le long de la Touloubre et le long donc de la gare routière. Voilà. Vous avez vu ? Oui. Alors, quand il y a un transfert, il y a ce qu'on appelle une commission de transfert de charges. C'est-à-dire là, il y a très peu de. Mais je réponds quand même à votre question. Là, il y a très peu d'opérations d'entretien, parce que c'était quand même la mairie qui le faisait. Le site était pour les investissements sur le SAN, mais le nettoyage, ça, c'est nous qui le faisions. Donc, ce n'est pas le SAN. Mais je réponds à votre question. Lorsqu'on transfère un bâtiment, si on transfère Pablo Neruda, on va transférer Pablo Neruda, qui est site complètement Ouest-Provence, puisqu'il y a le conservatoire de musique et le conservatoire de danse qui sont Ouest-Provence. Ça veut dire que l'électricité, le chauffage, les femmes de ménage, les petits travaux d'entretien, etc., etc., sont totalement payés par le SAN. Donc là, on a des évaluations précises, puisqu'il y a des factures, il y a des devis depuis quelques années. Donc quand on transférera Pablo Neruda, il y aura le transfert du bâtiment, auquel s'ajoutera, soit en personnel propre, S'il y a du personnel, mettons une secrétaire attestée, etc., on récupérera le personnel, mais on récupérera son salaire chargé, totalité. Il sera fait une évaluation sur la dernière facture d'électricité, sur la dernière facture de fioul, sur ce que coûte le bâtiment. Et avec le bâtiment, il sera transformé la somme équivalente à ce que ça coûtait en Ouest-France. Voilà. De toute façon, à terme, on y perd, puisque l'électricité va augmenter et que la somme est fixe. La somme est gelée et fixe. On aura la facture 2014, 2015, hein, si, voilà. Mais si on prend 10% en 2016, ben, c'est le budget municipal qui paierait 10%, alors que là, c'est ça. Mais le transfert personnel, charges, etc., c'est dans le cadre des transferts de charges, au moins le revient. Charge à nous, après, sur les économies. Là, on n'a pas de transfert de charges parce qu'il n'y a rien, à part les investissements qui étaient à la charge de la commune. Mais on aura des délibérations dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, où il y aura ces opérations de transfert de charges avec du personnel. Je prends l'exemple, la compétence environnement à la louche, c'est 7 à 8 agents. Avec du matériel, des tracteurs, de tout le machin. Alors, où on a un tracteur, parce qu'on a fait plus un tracteur, où on aura le quart du tracteur qui est estimé à temps avec son montant. Voilà. Si je vous en passe, c'est le meilleur, le service, c'est même plus. Quelqu'un voulait poser une question?
Parce que la première année, c'est le simple, tu vas vous verser ça en passant
Le bâtiment.
les charges,
Oui.
le bâtiment passera les charges.
Oui.
Et la deuxième année, quand il n'y a plus le simple, c'est que vous prenez.
Mais c'est la métropole, puisque
La
ça, c'est charges fixes. Ça, c'est
métropole,
dotation
c'est
fixe.
prévu que
C'est une obligation et c'est dotation fixe. Ça fait partie des dotations fixes. C'est pareil quand vous avez des dotations de solidarité, on a eu plusieurs délits comme ça. Une année, on a un budget, on finit un budget avec un peu de mou au sol, on fait une dotation exceptionnelle, qui n'est pas fixe. Obligé que l'année d'après, il reste des sous dans les caisses du SAN et qu'on se transfère. Donc ça, c'est l'année X. Bon. On l'a fait là, quand on prend des dotations qui n'étaient pas pérennes et qu'on les rend pérennes, le chiffre est bloqué. Mais c'est pareil, il est bloqué au montant de. Aujourd'hui, les transferts qu'on a fait divers et variés, les impôts, le truc, on est passé de 2 millions 2 à 3 millions, on est autour de 3 millions, donc on le sait. Donc on encaisse 3 millions, ça c'est fixe. Bon. Et la métropole le prendra avec. Ah ouais, sinon. Bon. Voilà, je reviens à la délibération pure sucre, mais c'est bon de donner ces explications parce qu'on va en avoir comme ça régulièrement. Des observations? C'est contre, hein, qui s'abstient. Merci. Alors, là, mais c'est la même veine, on a ça. Alors, qu'est-ce qu'on est là? Ah, c'est l'inventaire. Bon, ça, c'est la commune avenue du Royaume-Uni, je vois où c'est. À Istres, probablement. Donc là, ça fait partie. Ben, pareil, alors, Cdlib, Istres, Cornillon, Miramas, ils les ont, mais là, ça ne les concernera pas, comme nous, ça ne nous concernera pas. Celle-là, ils l'ont aussi, puisqu'il faut une approbation globale, hein, de l'inventaire.
Là, Cdlib, c'est marqué situation nouvelle, on ne peut pas marquer la ville où c'est affecté. Situation nouvelle.
En fait, ça affectait un service. Donc, c'était au SAN, développement économique, c'est maintenant au SAN, aménagement.
Ah, ça reste au SAN.
Ça reste au SAN, exactement. C'est pas un transfert d'interco à commune. Voilà, exactement.
C'est les mises en route pour les transferts futurs où on repositionne en fonction des compétences qui seront transférées, qui seront métropoles, qui seront communales. Voilà, donc là il s'agit d'une immeuble La Tahitienne, avenue du Royaume-Uni. Je ne sais pas quelle commune, Istres probablement. Pas de questions? Qui contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, dotation, mais voilà, dotation donc, de solidarité. Donc là, dans le cadre de ce que je vous ai évoqué, nous avons la nouvelle répartition avec la dotation de solidarité communautaire selon la population et la DGF. Alors là, c'est
Ouest-France Habitat.
C'est Ouest-France Habitat. Alors là, il y a une manip.
C'est 4 millions d'euros.
Il y a une manip, il y a Provence Habitat. Qu'on divise. Vous l'avez vu? Donc, on divise par commune le nombre de parts. On ne va pas démolir Provence Habitat. Donc, on y fait son bilan d'inventaire. On répartit par commune avec des parts. Il y aura une délibération probablement à plus loin, d'après, qui va définir, voilà, là, qui va définir donc le nombre de parts qu'on a. Le SAN va nous verser la dotation qui équivaut à le nombre de parts. Et on va racheter nos parts à Provence Habitat, c'est-à-dire qu'on sera co-actionnaire, Voilà, de la même manière qu'on l'est par l'intermédiaire, aujourd'hui on est par l'intermédiaire du SAN, c'est le SAN, on le redivise par commune, on recrée Provence Habitat, ou on le redevient co-optionnaire en achetant le parc qu'on avait en pourcentage dans West Provence. Vous m'avez suivi ?
Je les 6 communes du SAN prennent 33%
oui. Oui, mais bon. Donc la première partie.
De la part
du. Donc après, vous avez l'acquisition des titres détenus dans Provence Habitat. Alors, on n'a pas voté cela. Oui, la première, la dotation. Alors, qui est contre, qui s'abstient, hein. On vient à l'achat, donc, et aux actions, dont le capital social, la répartition, donc, et le montant, 144 924 euros. Donc je ne refais pas les filles.
On aura des questions. Il y a des chiffres, on ne comprend pas bien. C'est pour ça qu'on va s'abstenir. Pour nous, c'est flou.
Dis-moi.
On parle au début, à la début, de 58% du capital social, représentant 102 000. Sur un total de 174 000. Donc si je comprends bien, le 102 000 et les autres actionnaires, c'est à qui ça?
Alors, dans West Habitat, il y a le conseil général, il y a d'autres structures. Oui, d'autres partenaires, oui.
Là, c'est juste l'équivalent du SAN.
C'est la partie SAN. Évidemment, on ne se répartit que la partie SAN.
Oui,
voilà. On ne se répartit que les 58% du SAN.
Non.
Que les 33% du SAN.
On répartit 33% de la part du SAN. C'est-à-dire 33% des 58,5% que détient le SAN.
Oui.
Donc l'écart entre 58,59 et 33, qui c'est qui va le garder?
Ça reste au SAN, donc à la métropole.
Dans la métropole.
Et pourquoi c'est une volonté là, mais c'est, ça fait d'avoir une minorité de vocale.
Pour avoir une minorité vocale.
Pour le garder.
Et on paye, si on peut payer. Si on garde tout, il faut acheter 2 fois plus.
Oui.
Donc il faut dépenser 2 fois plus. Donc il faut sortir du SAN 2 fois plus. Si on le sort de là, on ne peut plus le rentrer ailleurs pour des travaux, pour d'autres subventions, des trucs. Donc, il y a un équilibre, on a simplement pris la minorité de blocage pour que la métropole ne nous impose pas, si on n'a pas envie qu'elle nous impose sur les logements sociaux. On avait suivi. Hein, je sais que c'est. On va l'avoir. On va les passer à la pelle, hein, là, ça va être très compliqué. Hein.
Poser une question, ça peut paraître bête, en 5 minutes.
Ah non, vous inquiétez pas, nous, c'est égal. Alors, je vous assure que là, dans le contexte, c'est pas aussi bête, parce qu'y compris les services, on y emmerge pas mal pour arriver à monter les opérations, parce que si on prend d'un côté dans le budget du SAM, on l'aura plus de l'autre, en même temps, il ne faut pas en laisser parce qu'on ne veut pas que ça parte à Marseille, et en même temps, ça va un équilibre qui font que là, on est resté sur la minorité de blocage. On n'a pas tout racheté parce que on se pique les sous dans nos caisses, hein, donc pareil. Voilà, donc l'acquisition des titres détenus, donc qui compte, qui s'abstient, qui vote pour, là. Donc cette partie-là, j'ai fini moi ou...
Oui, oui.
Voilà, allez Michel.
Je crois que c'est plus simple. Il s'agit donc d'une demande de subvention au conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre des travaux de proximité. Nous terminons notre demande de travaux pour l'exercice 2015. Donc là, on a regroupé un ensemble de travaux qui en fait ont la même finalité, c'est-à-dire d'aménager l'intérieur de patrimoine de la commune, qu'il s'agisse d'écoles, du nouveau CTM, puisque le CTM nous a été livré par le SAM, mais pour partie non aménagé à l'intérieur. Nous avons la maison de l'association où il a fallu faire et il faut encore faire certains aménagements. Et puis nous avons la chapelle Saint-Charles pour laquelle il faut refaire le plancher. Donc l'ensemble de ces travaux d'aménagement intérieur représente un montant de 79 551,44 € et on demande 80% plafonné à 60 000 euros. Il restera donc un autofinancement de 19 551,44 € pour la commune.
La chapelle de la Mère de Dieu, le plancher ou le.
C'est Saint-Anne de l'église de Saint-Pierre.
Oui, c'est de l'église, mais c'est où on fait le.
C'est pas la Mère de Dieu.
Non, où on fait le. Ils font le catéchisme. La commission de sécurité est passée et ils considèrent que le plancher est dangereux, donc on n'a plus accès. C'est pour ça qu'on les a provisoirement transférés à la maison des assos, je crois.
Oui.
Ils sont à la maison des assos, je crois. Parce que le, c'est vrai que c'est dans un état un peu historique. On va le remettre à jour. Je rappelle que ce bâtiment est un bâtiment communal dont la responsabilité nous incombe en termes de sécurité. Voilà.
C'est tout.
Oui.
Bon, je voudrais revenir pour avoir quelques précisions. Bon, sur les écoles, on n'a rien à dire. Mais sur le stade et la maison des associations. Bon, le stade, on doit se préciser dans la ville pour un portail. Je veux bien. Pourquoi ça n'a pas été prévu initialement, ça veut dire que le stade a été clôturé, on fait un stade clôturé par le portail. Deuxième chose, est-ce qu'on peut préciser un peu plus au sujet de la maison des associations?
Sur les associations, je laisse répéter ce que nous avons déjà dit. Sur le stade, Marie-Rose, la clôture de Marie-Rose, c'est je ne sais plus combien de kilomètres. On a prévu la partie stade qui était faite de côté. Cette partie-là, c'est l'entrée du parking qui n'est pas aménagée, qui fera l'objet d'ailleurs de l'aménagement de parking de Marie-Rose. On avait un portail qui était en place. Il s'avère que les camions de PAV, puisqu'on a mis des PAV plus loin, les camions de PAV ont nécessité qu'on élargisse le portail, et en élargissant le portail, je rentre dans le détail, mais l'accès du portail fait qu'il y avait 35 cm de vide dans la partie sur Lyon, puisque c'était en pente, et il faut donc qu'on reprenne le bord de la route et qu'on compense ça avec eux, il y en a pour 8 ou 10 000 euros, puisque en élargissant le portail, comme il y a le dénivelé, comme on allait plus loin, on avait 40 cm sous le portail, c'est-à-dire les portes qui se glissent dessous. Donc il faut qu'on aménage tout le devant et un peu plus loin pour que la pente n'ait pas un mur et qu'il n'y ait pas un trottoir. Voilà. Ceux qui ont vu sur place.
On va les mettre dehors aussi.
Il va y en avoir dehors, non.
Les utilisateurs ont demandé de les laisser dedans parce que de toute façon, sinon les gens n'iraient pas les mettre dehors. J'ai demandé aux associations. Hein. Mais ça ne nous empêchera pas d'en mettre dehors quand même. Du coup, on aura un point d'apport volontaire supplémentaire.
Non, c'est pour les associations qui utilisent le truc vont déjà nous leur demander des PAV pour ne pas balancer les trucs. Moi, c'est pas mal. Donc, sinon, on aurait tout retrouvé. Mais le portail.
Bon, on l'aurait fait quand même.
Le portail, largement. Il va bien falloir descendre, entretenir Marie-Rose, les camions, les trucs. Voilà.
Vous l'avez déjà accroché.
On a revu cette application à la sortie, puisqu'on en
est
à. On est dans le champ en bas,
certainement. Je ne suis pas allé, j'avoue que je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quant à la maison des assos, mais comme je l'ai dit le jour de l'inauguration, en particulier les placards, l'utilisation de tout un tas de trucs, c'est un forgeant que devient forgeron, mais donc au fur et à mesure de l'utilisation des assos, elle nous demande des placards fermés, des placards moins fermés, et donc petit à petit. Oui, il y en a qui veulent être fermés, pas
fermés.
Il
y a des portes,
mais
fermées. Il y a des portes.
Il y a des personnes qui veulent avoir leur truc fermé. On a même pensé, Louis qui n'est pas là, mais il avait discuté avec les associations pour faire des genres de corps qu'on rentrait dans le placard. Je ne sais plus, plusieurs propositions qu'il y a eu.
C'est vrai que l'avantage d'avoir des placards à la maison des associations, c'est de pouvoir ranger les documents. Voilà, dans la maison, à droite à gauche.
Non, mais attends, mais au début, moi, je pensais qu'il y avait un bureau fermé. Le placard, il était fermé.
C'est-à-dire du secret. Non, ça ne regarde pas tout le monde non plus. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Je veux dire, bon. Mais après, ce n'est pas des individus non plus.
Donc, globalement, toutes les associations ont demandé à ce qu'on ait des systèmes de fermeture.
Et sur un plan purement comptable, il vaut mieux avoir des placards soit attachés plutôt que des placards mobiles. Il me semble que j'en ai suivant. C'est pour ça qu'on emploie le terme d'aménagement intérieur.
C'est vrai aussi que. Bon.
Les associations, je pense que quand on a parlé, on parlait nombre de bureaux dans les réunions il y a 3 ou 4 ans, on n'en était pas à comment on va faire les placards. Quoi. Oui, maintenant on est en train de me dire le bureau ça ne sert pas. Voilà, oui, donc. Mais vous avez raison de rappeler, M. Ariane, que si on avait écouté ce moment, on faisait 40 bureaux. Hein, c'était, voilà, petit à petit, on va nous dire que les bureaux ne servent plus. Dans un an ou deux, il va être 3 à 5 à 100 par bureau parce qu'ils vont juste mettre les placards.
Non, c'est
les images
qu'on doit poser.
Ouais. La solution hier, on avait trouvé, c'est la salle Rose-Océan, où chaque association avait une armoire différente. Là. Il y avait 15 frigos, il y avait 18. Mais ça, on ne veut pas. Donc, on a trouvé une solution qui est meilleure.
Mais... C'est le temps de rendre. Par exemple, un bureau pour 3. Moi, le bureau, j'y vais, je suis allé depuis que c'est ouvert, jusqu'à rester 2 heures maximum.
Enfin, vous avez assisté aux réunions de bureau, les réunions de bureau des assos, au début, on aurait fait 40 bureaux. J'ai 40 bureaux pour arriver à dire on va vous mettre 3 dans un bureau. Je connais même une assoce qui a dit puisque je pars faire une cour avec quelqu'un, je viens pas. C'est génial, je lui ai dit. Bon, donc. Après. Ouais. Bon, allez, je reviens à ma solution. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, CDD à cimetière.
Jean-Louis.
Oui, non mais oui, voilà, mais je l'en veux du jour qui se promène entre droite et gauche. Voilà. Oui, je précise que la au-delà des commissions, donc on a un nouveau cimetière, on l'a mis au PLU, on va aller peut-être un peu plus loin avec le crématorium, on travaille beaucoup là-dessus. Là, et donc, s'il y en a qui veulent participer à une commission spécifique à part, mais donc j'ai chargé Jean-Louis Gallière de suivre ce dossier. Que chaque gros dossier, il y a un élu qui le suit en propre. Voilà. Donc c'est Jean-Louis qui suivra tous ces problèmes au cimetière avec la DSP qui va suivre tout le bazar, parce que ça va être un bon dossier.
Donc, la demande de subvention de cette minette est située dans le nord de la DSP. Bon, vous avez le chiffrage, mais je vais y revenir, à savoir que tu me sois permis de repréciser une chose, c'est que cette demande de subvention s'inscrit dans une obligation aussi. On a déjà traité le 17 mars lors d'un précédent conseil municipal, à savoir que la commune a obligation de proposer à ses administrés des moyens de l'intérêt d'innovation digne de ce nom. Il se trouve que la situation actuelle du cimetière de Vence, c'est un secret, je pense que personne ne sort de cette table, ne permet plus, et nous sommes, vous avez déjà voté d'ailleurs le 17 mars une délit sur le sujet, à savoir que bon, obligé à l'heure actuelle de faire du réaménagement plus que temporaire pour justement permettre à nos administrés de pouvoir exprimer le minimum. Donc une obligation est claire, à savoir créer un nouveau cimetière sur la commune, tel que ça peut être posé dans la ville, à savoir il a, au niveau du PLU, bien entendu, les terrains avaient déjà été ciblés et mis en réserve. Comme ça vous est donc précisé. Il a déjà été pris un petit plan sur le sujet pour nous proposer bon, de travailler sur des pistes envisagées, donc sur les terrains qui ont été mis en réserve au niveau du PLU. Donc, cette demande de subvention a pour but, tel que c'est précisé, une première phase, la création de ce cimetière, une première phase qui nous permettrait de répondre aux demandes. Aux nécessités, je dirais, jusqu'à 2025, pourra permettre au moins l'assise de 200 sépultures dans cette convention, avec une possibilité de monter en charge, c'est le deuxième et le troisième phase. Il a été précisé aussi dans la délib, ce qui nous a paru, et d'ailleurs, pour ceux qui vont nous remettre dans la commission, je pense que il y a un bon débat sur le sujet, à savoir la création sur la commune de Grasse d'un crématorium qui pourrait, tel que ça vous est précisé, bien entendu, compléter la part d'autofinancement voilà, et bien entendu asseoir notre déjà répondre aussi à nos besoins sur le secteur de Grasse et sur les communes environnantes. Et de l'autre côté, bien entendu, asseoir l'assiette financière et les revenus par rapport à amortir le coût de la création de ce cimetière.
Sachant que le crématorium est une structure privée qui nous paye un loyer ou des travaux. Et...
Alors, je vais passer sur les chiffres. Donc, vous avez vu que sur la première tranche, le montant est de 2 223 000 euros, avec une demande de subvention au conseil départemental de 733 000 euros. C'est 800 euros. Et donc, avec un autofinancement de la commune de 489
Tout à fait, cet autofinancement étant progressivement remboursé par la vente des concessions.
Quelques remarques, donc évidemment, hein, tout à fait, avoir des cimetières, là, c'est le thème. Donc déjà, peut-être le choix de faire un cimetière au long de la saison 19, parce que alors, je ne sais pas comment va se faire un aménagement d'entrée à la sortie de ce cimetière, s'il sera exclusivement avec un accès sur la saison 19. Donc je ne sais pas si le choix était bien.
Il y a un accès léger, piéton, etc., par le chemin des lignes.
J'espère que quand il y aura ce cimetière, on fera l'aménagement de l'entrée sur C19 avant de faire le cimetière. Et à partir, on a connu dans beaucoup de quartiers quand vous avez l'aménagement d'abord et puis dans
cette
ligne.
Imaginez-vous, et ça ne passe pas sur le sujet, ça fait l'objet d'une réunion où ça a été présenté, bien entendu, dans la commission qui travaille sur le sujet, à savoir, il y a deux hypothèses, bien entendu, c'est une priorité. Ça, c'est la priorité des priorités. On ne peut pas concevoir un chantier de cette taille et au bord de cette voie sans prendre en considération des problèmes de sécurité, d'accessibilité et d'aménagement. Donc, bien entendu, il y avait deux pistes qui avaient été étudiées, avec un contre à l'origine, si je me souviens, il y avait une histoire de Nilo sur la voie, hein, sur la 19. En fait, non. Et bien entendu, c'est la priorité du consultant pour qu'il va nous proposer un aménagement d'accès en priorité à la voie, bien entendu, l'aménagement définitif du cimetière.
Et en liaison et en accord avec le service des routes du conseil général qui était à cette réunion.
Je me permets de dire ça, parce que moi j'habite un quartier, qu'on a fait tout un quartier, tout un bâtissement, plein de logements, qu'on a fait des aménagements.
Donc je dis pas. Non, mais c'est bien de
l'entendre dire de votre côté.
Non, il n'y a aucun souci. Mais c'est légitime.
Et je précise qu'il y a un accès piéton, vélo, etc., par le chemin des lignes. Par le centre-ville, hein, par le bas. Bon, allez, on revient. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Alors là, on s'est dit que qui peut le plus peut le moins, donc c'est Gérard Bartoli. Mais après réflexion, vous avez reçu une demande de subvention. On s'est dit qu'on pouvait aller un peu plus loin dans le cadre énergie et climat. Donc partout où vous voyez 60%, vous mettez 80%. Peut-être qu'on n'aura que 60, probable même qu'on n'aura que 60.
Je veux dire.
Voilà, donc, mais non, mais c'est pour rectifier, parce qu'on va me dire, tu vas dire un truc, et je vais dire, donc, on a... Allez, Gérard.
Oui, donc, il y a un mois de ça, nous faisions une réunion sur le plan climat. Les élus qui ont participé ont eu raison. Ils savent que c'est que le plan climat de l'intercommunalité. Et dans cet esprit de plan climat et de changement climatique, il est évident qu'on rénove un peu nos bâtiments, puis on redonne une performance énergétique un peu meilleure qu'actuellement. Donc actuellement, on a deux projets qui dépendent pas d'un bilan énergétique. Hein. C'est de l'action rapide et nécessaire. C'est simplement une isolation par le haut, parce que vous savez que les calories, ça part surtout vers le haut, et le changement de menuiserie. Là aussi, vous savez qu'une simple vitrage, c'est une déperdition calorifique énorme. Hein. Donc, on a deux projets en ce qui concerne les classes du conservatoire et les salles de l'urbanisme, là où il y a des menuiseries très anciennes et très perméables au froid. Donc pour un montant de 30 000 euros plus 15 000 euros. Tout à l'heure, on est arrivé juste à l'heure parce qu'il y avait une conférence là, sur le CINPRO et on a parlé aussi de l'opération Zéro Phyto, conférence le jeudi prochain avec signature par le maire de l'engagement communal. Ceux qui y étaient ont eu raison d'y être. Et on a cette opération thérapeutique, il faut un brûleur d'herbe, hein, plus de pesticides, mais on brûle, ou on arrache la main aussi, hein, ça existe aussi. Donc, tu te trouves dans un pays africain, évidemment, ces frontières doivent avancer à la main. Mais nous sommes dans un pays socialement inondé, et ça peut aussi avoir avancé à la main, parce que nos employés, nous les payons. Donc, je vous propose un montant total d'investissement de 95 000 euros, mais vous avez reconnu l'erreur, la sous-estimation qu'on avait faite, parce qu'on est toujours modeste. Le plan énergie-climat, on avait pensé avoir 60% de subventions. Donc, nous aurons 80% de subventions.
Donc, là, il y a
marqué 60%, vous mettez 80%. Coût du projet, 95 000 euros, ça ne change pas. Subvention du conseil départemental au titre du plan énergie-climat, hein, parce qu'on en a un. Au 257 000, vous mettez 76 000. Et autofinancement de la ville de Rennes, 238 000, vous mettez plus que 19 000. Et puis, il vous reste plus qu'à poser.
Ah, ben, avec une question.
Bon, je suppose que vous avez différentes types de vie. Le déserteur, 50 000 euros, c'est le tracteur ou pas?
Alors, c'est pas ce truc que tu as à la maison pour.
Alors,
pour information, je l'ai précisé en pleine réunion là-bas. Ça fait 2 ans qu'on ne désherbe plus au désherbage, si je puis dire. On le fait à la main. Dans la première année, ça va, ça a réussi à passer. Là, l'effet désherbant ne fait plus d'effet au bout de 2 ans. Et on est de plus en plus envahi par les herbes. Mais comme on a le même personnel qui grappille à la main, commence à recevoir des lettres de lotisseurs, de lotissements, on disait il y a des herbes sur les trottoirs, le truc, le machin. Non. Alors on a eu un débat de fond sur lequel je ne reviens pas, en disant qu'il y avait des panneaux, que le petit cocolico, ça n'a jamais mangé personne, et que la branche de pissenlit ne peut jamais tuer personne. Mais c'est un comportement de société qu'on ne va pas faire changer de main. Les gens, ils veulent pas d'herbe, ils veulent du goudron, pas d'herbe qui dépasse, etc. Si on veut faire le même travail, il faut embaucher 2 agents. 2 agents chargés, c'est 50 000 euros. Pour le faire la même, continuer à faire. Donc, comme on a cette opération, qui d'ailleurs fait partie du contrat de la nappe de proue et de la convention que j'ai signée et l'autre que je vais re-signer, là, on est quand même, on n'est pas avec la petite truc qu'on a chez nous, pour ceux qui l'ont, la petite bouteille de gaz avec ma chaise, je recommande à vous de l'avoir. Bon, on est quand même un truc où on va passer dans les rues, on va pas se balader à la petite bouteille de gaz. Donc, ce sont des désherboirs à eau chaude ou à truc, ce sont des véhicules, des opérations de véhicules, équipés avec. Bon, ne me faites pas rentrer dans le détail technique. Mais voilà, c'est pas le petit brûleur qu'on a dans nos jardins, hein, voilà.
Comme on dit, on est largement subventionné, hein, dans celle de 6 heures, quand certains sont à l'aéroport, peut-être, voilà. Ou quand tu reviens de l'aéroport, ils ne seront pas 90%.
C'est-à-dire qu'on va essayer de désherber autant de cavales, sans désherbant, et sans que ça nous coûte plus cher en termes de personnel. Voilà l'opération de la minute. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors,
je vous propose de faire une demande de subvention pour travaux de prox pour le réaménagement du parking Pablo Neruda.
Vous avez vu que le copinage ne nous empêche pas, ou non copinage, de continuer à demander fortement des subventions et essayer de les obtenir. Hein. J'espère d'ailleurs que puisque ce n'est pas des copinages et que ce sont de bons dossiers, on les obtiendra. De la même manière, alors c'est pas, après, Madame Vassal est charmante, mais j'étais prêt à donner ma personne avec le président là. Là, je pourrais aussi, mais ce sera plus simple. Je referme la parenthèse.
Donc, on demande le maximum, donc 80% de travaux de prox, on part sur 78 000 euros, 60 000 euros de demande de subvention et 18 000 euros d'autofinancement. On passerait à une quarantaine de places.
Vous voyez la partie qui va rester publique et avec la route.
Oui, devant
Pablo
Neruda.
Il n'y a pas 30 places, on va passer à 40.
On en a 27 de place. Il y a 27 et on passe à 40 places. Donc ça fait 13 places de plus.
Qui est contre?
Parce que vous avez fait un parking mail et on a toujours dit qu'il fallait un parking mail.
Eh bien voilà.
Je pensais que c'était à côté par des nouveaux. Donc il y avait des anciens.
Non.
Là, c'est les nouveaux bâtiments.
Non, mais là, les bâtiments qui ont créé 60.
Il y a un très gros bâtiment.
Les trucs ont créé 60 places, alors 25 places.
Mais de toute façon, il y a deux places de parking.
Dans la partie privée, la partie souterraine.
Il y a ça, c'est public. Par
parle bien des places publiques. Qui contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, maintenant, on revient à Michel.
Alors, l'ADN. Donc, on vous avait prévenu au dernier conseil.
D'habitude, on a de l'eau au conseil. On n'a pas d'eau.
Non. Alors vous avez fait mieux au dernier conseil, puisqu'on a passé le budget primitif, et tout de suite on passe une DM numéro 1. C'est une année qui va se renouveler, on va avec ce qu'a dit tout à l'heure, que le transfert, on aura forcément d'autres DM à prendre. Alors celle-là, elle a pour objet d'acter deux rentrées de recettes, une en recette de fonctionnement, on l'a vu tout à l'heure, c'est la dotation de solidarité qui est donc complétée à hauteur de 184 000 euros. On a une deuxième rentrée de recette qui est la taxe d'aménagement qui rentre dans la recette d'investissement. Ça, c'est donc les deux rentrées principales. Ensuite, nous allons donc affecter à la section d'investissement la prise de participation dans Ouest-Provence Habitat, on en a parlé tout à l'heure. Et nous avons, puisqu'on a passé quelques opérations d'investissement, nous avons affecté quelques travaux qui ont été passés tout à l'heure, même dans les dépenses d'investissement. Et vous avez pu lire en détail qu'on a quelques petits ajustements, notamment, si ma mémoire est bonne, on a rajouté les 40 000 euros pour l'étude de PMU. Donc, plus de quelques petits ajustements sur les charges à caractère général, c'est toujours très tendu de tenir le budget. Voilà, donc ça se traduit par une augmentation de la section de fonctionnement en recettes dépenses à hauteur de 228,05, une augmentation de la section d'investissement importante à hauteur de 388,05, le tout faisant une augmentation globale du budget de 739,039,10 €. Donc, vous avez fait cette première DM et alors à d'autres
questions.
Oui, juste une question, une précision. Donc, c'est clair que nous, pour la dotation de solidarité, le fait d'accepter les actions de province à l'État, mais vous avez parlé, je te permets tout à l'heure, de la taxe d'aménagement de plus de 200 000 euros. C'est qui donne ça?
Elle est déjà perçue à votre part. La province, elle est perçue par le SAN.
Par le SAN, ça revient à nous.
C'est oui. Oui. Et donc, c'est la taxe sur les constructions nouvelles.
Alors, on ne l'avait pas passé au budget public parce qu'on n'avait pas le montant précis. Maintenant qu'on a le montant précis, on le passe en DM.
Et l'explication pourquoi c'est le SAN, parce qu'il y a eu la discussion, pourquoi on voulait perdre le SAN faisant les travaux d'aménagement des voies. Il était normal qu'ils reçoivent l'argent nécessaire au tout à l'égout, nécessaire au nouvel. Mais en mesure où on reprend aussi la taxe.
Donc avec le fonds de compensation de la TVA, plus le conseil d'aménagement, ça vient donner le financement de la commune sur les projets d'investissement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
On a des rentrées supplémentaires en donnant de l'État.
Ah non, c'est pas du tout l'État là. Non, non, l'État c'est fonction. Ils ne nous donnent rien en plus.
Ils auraient pu fonctionner ça aussi. Ils auraient pu
fonctionner ça aussi. Bah ils le font indirectement, hein, parce qu'ils nous piquent ailleurs. Je rappelle, et je ne m'arrêterai pas de le dire, que l'année prochaine, l'impôt local sera pour partie un impôt national. C'est-à-dire que quand les gouvernements divers et variés vont vous raconter qu'ils n'augmentent plus les impôts, effectivement, ils n'augmentent plus les impôts, ils vont le piquer sur les communes, puisque entre ce qui va rentrer dans la DGF et ce qui va sortir par la solidarité, etc., l'année prochaine, le bilan de ça fait qu'il y a 130 000 euros qui vont partir à Paris. Donc notre impôt local, en fait, ça va être un impôt national indirect qui va passer par la caisse du Trésor IPR de Salon et qui, à l'arrivée, va remplir les caisses de l'État. Et c'est vrai, dans quasi toutes les communes de France, il suffit de lire les journaux et de regarder divers articles sur le problème des communes, où nous, encore, on arrive à faire des travaux, mais les communes qui elles sont à limiter les travaux. Et d'ailleurs, les entreprises de BTP sont en train de faire des pétitions dans les mairies parce qu'ils réduisent les investissements. Il y a 10 000 emplois à la clé sur les Bouches-du-Rhône, sur le point d'investissement. Alors, je reviens à l'ADN. Oui.
Sur les augmentations des sections d'investissement, les 380 000 euros, vous avez dit que ça correspondait à l'achat des actions?
Non, l'achat des actions.
C'est recette.
184. D'accord. Et il y a une partie qui est affectée au nouveau projet qu'on vient de voter tout à l'heure. Donc ça se découpe en deux. Les différentes demandes de travaux de proximité sont dedans. Plus les 40 000 pour les études. Qu'on passe à
cet achat d'actions, ça rentre et ça sort. Hein. Dans le budget, ça fait que rentrer et sortir. Hein. Mais c'est nous qui sommes actionnaires, c'est ça. Donc je reviens au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors, toujours Michel, suppression d'une régie.
Oui, alors là, il s'agit d'une petite opération administrative de supprimer la régie d'agence des services administratifs. Cette régie n'a plus de sens puisqu'elle avait été montée lorsqu'il y avait le mécanisme des cartes des jeunes et que, comme on a, et qu'il fallait qu'il y ait une régie d'agence pour permettre de rembourser la caution. Donc, et comme on n'a plus ce mécanisme-là, il n'est pas nécessaire de garder cette régie d'avance, donc on vous propose de la supprimer, sachant qu'on a encore d'autres régies d'avance, notamment sur la crèche, la LSH, mais pour cette partie-là, ce n'est pas nécessaire de garder cette régie d'avance. Les régies de recettes, bien entendu, c'est un autre sujet, on en a beaucoup. Voilà, donc on vous demande de la supprimer, d'autoriser le maire à signer la délibération correspondante.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, syndicat mixte, énergie.
Alors, sur le, donc, il s'agit de, d'un sujet très important puisque on a déjà eu le débat sur le gaz naturel. Vous savez qu'il y a un décalage sur la, les obligations de mise en concurrence entre le gaz naturel et l'électricité. Le gaz naturel, on l'a fait puisque le syndicat mixte d'énergie au 1er avril 2015, mis en place le groupement d'achat. Nous étions 49 communes sur la partie gaz. Sur la partie gaz, nous avons économisé 20% en fait à 5 ans. Donc, pour la commune de Sous-Lorange, on a économisé presque 5 millions par an. Et donc, le syndicat mixte a décidé dans son bureau et après dans son conseil ce matin, donc, donc de lancer l'acte constitutif pour le groupement d'achat de l'énergie électrique. En mettant tous les tarifs, le mode vert et le bleu, qui n'est pas obligé d'être mis en concurrence, mais on a tout décidé de mettre en concurrence. Pour la petite histoire, il n'y a pas besoin de la métropole pour arriver à se fédérer. Nous sommes 87 communes du département à se grouper sur l'achat de l'électricité. Il y en a une qui n'est pas dedans, c'est très curieux, c'est la zone grise. Ça va faire trouver un moment. Il n'y a pas besoin de la métropole pour se grouper, le oui, fait n'existe pas.
Ça n'a jamais été con, ce qu'on ne veut pas, c'est jamais marié d'office. Vous n'êtes pas marié de force. Vous avez choisi votre épouse. Nous, on aurait choisi avec qui de se marier, pourquoi?
Pour la petite histoire, dans le SMED, je rappelle que la commune de Marseille n'est pas, et que la force d'achat de l'électricité, nous sommes 97 communes dans le département.
Eux qui veulent beaucoup nous fédérer, ne se sont pas fédérés. Là.
Marseille n'est pas avec nous, et Istres n'est pas avec nous. Très curieux, hein? Je ferme la parenthèse. Je ne vais pas vous dire en détail le groupement, ni le calendrier. L'objectif, c'est que, bien sûr, nous donnions un mandat au syndicat mixte qui jouera le coordonnateur. Je rappelle que la mission pour la commune de France confiée au SMEL, ça nous coûte 500 euros. Le frais administratif. Alors, bien sûr, on ne gagnera pas sur l'électricité 20%. Mais si on espère au moins stabiliser les prix, je rappelle que la commune de Grand dépense environ 190 000 euros par an d'électricité et que si on a une petite économie, elle sera la bienvenue. Donc on vous demande d'autoriser, bien sûr, M. le maire à signer les documents et à s'engager dans le groupement d'achat d'électricité avec nos autres collègues des communes du département.
Des questions? Pas de questions? Qui est contre, qui s'abstient. Merci, unanimité. Alors, on arrive à la deuxième vague d'emploi jeune, je veux ça un peu vacataire, un peu jeune d'été, sur la partie donc des centres de loisirs d'été. Nous avons pas mal de demandes. La problématique par rapport aux emplois jeunes des services techniques, on a fait un tirage au sort. C'est que là, les services me disent, donc, tous ceux qui ont les BAFA, qui remplissent les conditions, pas de problème, ils seront embauchés, les grands soirs. Et sur les quelques postes qui restent, le service qui aura une charge, parce que là, c'est quand même la sécurité, préfère faire des entretiens quand même sur ceux qui n'ont pas les diplômes complètement adéquats, et pas faire un tirage au sort. On ne peut pas tirer au sort la sécurité de nos enfants. Donc, on définit les périodes, on définit les nombres, il y a à peu près 30 demandes. Hein. Et il y aura pour ceux qui ont seulement les diplômes, BAFA, grand soir, tout ça, on les embauche. Sur les quelques postes restants, avec les candidats restants, le service fera des entretiens pour assurer quand même des jeunes qui ont une certaine maturité, une certaine compétence j'ai accepté cette. C'est ceux qui vont les service à la jeunesse ou la direction, ceux qui vont les avoir comme aide, je dirais, qui vont partir en vacances avec, de manière à partir avec les gamins, la directrice, enfin, tout qui
est sur. Elle n'est pas seule, je veux dire.
Ah non, c'est toute l'équipe, je ne sais pas qui.
Ça sera le DRH et la directrice du séjour, du séjour ou des d'affaires.
J'avoue que j'ai été, au début j'avais dit un tir au sort, mais tir au sort, là, je me suis rallongé à la vie de quand même avoir un petit entretien, même si les critères, grand soit prioritaire, etc., restent. Et après, bon, tir au sort, la sécurité de l'encadrement.
Et là, même ça, c'est beaucoup de responsabilités pour la directrice de la différence seule, c'est bien qu'elle soit accompagnée.
Oui, non, mais il y a le DRH, il n'y a pas ça.
Il y aura le DRH.
Voilà, donc là, on définit les tarifs, on fait tout le bazar. Il n'y aura pas de tirage au sort, il y aura sur les quelques postes qui peuvent être un peu particuliers, un entretien d'embauche. Voilà. Donc, je reviens un peu sur ce quoi je me suis engagé, mais j'ai été convaincu par ces arguments. On a fait le tirage au sort, donc on a participé pour les autres. Sur la partie service technique,
nous sommes toujours dans la table des listings de l'année dernière.
Vous n'avez pas d'autres.
Qui est contre ? Enfin, question. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, on vient dire Pascal.
Oui, donc il s'agit d'approuver le règlement de fonctionnement de la crèche municipale des Feuillantines. Vous savez que nous avons commencé des travaux pour l'agrandissement de la crèche pour passer d'une capacité d'accueil de 35 à 45 agréments. Et que donc, à chaque fois qu'il y a des modifications de fonctionnement, il convient de revoter le règlement de la crèche.
J'ai juste une petite question. La responsabilité de la direction, je vais vous dire, il faut bien informer les femmes. Ça, c'est obligatoire.
C'est quoi ?
La responsabilité de la direction, la directrice, c'est forcément informer les femmes. C'est une obligation.
C'est une obligation.
Et alors ?
Et ce qui me pose souci, c'est qu'en cas d'absence de la directrice, c'est la directrice adjointe qui prend son rôle. On ne devrait pas que celle-ci soit aussi en train de se faire. Et non, puisque vous avez mis les libertés de l'enfant, directrice adjointe.
Non, mais c'est prévu, de toute façon, ça c'est contrôlé par l'affaire, même si l'affaire se valide, c'est comme.
Non, ce que veut dire M. Rayon, si je vais vous dire, c'est que l'adjointe est aussi les adjoints.
À mon avis, il faut qu'elle ait le même pouvoir et l'attitude, donc la même formation.
Non, c'est prévu.
Oui, je pense aussi. Mais tout le monde, je pense que ça doit être une obligation. On regarde, mais je pense que c'est une obligation.
Vous gérez la crèche de à l'association, c'était deux infirmières du
gouvernement. Oui, mais je pense que c'est une obligation. Je pense que c'est une obligation.
Non, mais c'est ça, je pense que c'est parce que ça a changé.
Mais ce qui est paradoxal, c'est que directrice adjointe, ce serait l'indicatrice à temps partiel, et derrière, une infirmière du gouvernement d'État à temps partiel, tu ne fais pas fonction de directrice.
Non, mais avant, c'était déjà le cas. Il y a une infirmière.
Non, il y a deux infirmières. Il y a deux infirmières et on donne la responsabilité de la direction en l'absence de la directrice titulaire à quelqu'un qui a un diplôme inférieur à une personne qui a un diplôme.
Je ne suis pas sûr que je sois. Vous êtes décidément beaucoup en contradiction avec notre nous, DRH, qui fait parfaitement son boulot. Je vous propose que vous rencontriez parce que moi, il m'a amené, je ne sais pas si vous avez donné sur la discussion que vous aviez sur les. Je ne sais plus quoi, des indices à l'autre fois. Il m'a amené les éléments, c'est lui qui avait raison. Je suppose qu'il a dû vous voir là-dessus. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous le rencontriez, parce que sur ces domaines d'encadrement, j'avoue que je n'ai pas la compétence, mais lui, là. Donc, il répondra à votre question, j'ai incapable de vous répondre. Non, mais je pense, dans la logique, la remplaçante, elle a la capacité d'eux. Après, on vérifie quand même, mais bon. On va vérifier. Alors, je reviens sur ce nouveau règlement. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, Pascal, tu continues avec la convention avec la CAF ?
Donc, comme chaque année, donc, il s'agit de re-signer la convention de financement des dos vacants avec la CAF. Donc, ce convention là pour le but de favoriser le départ en accueil de collectifs de vacances, donc pour les enfants et adolescents, pour des familles qui sont pas locataires, qui sont des municipaux de la ville, qui sont des vacances en France.
Des questions?
Oui, juste une précision. Donc, si j'ai bien compris, la CAF verse en fonction de revenus des parents de 3 euros. Donc, si ceux qui ont le moins de revenus, la CAF donne 9 euros par jour par enfant. C'est ça. Donc, s'ils partent au centre de loisirs 18 de jour, on multiplie par 10 jours.
La limite de 16 jours.
Donc, quand je vois que la tranche 0,300 euros qu'on a voté au conseil municipal précédent, que les enfants partent, je crois que ça coûte 300 euros, donc la CAF, il verse seulement une fois ou deux fois 9 euros.
Et il verse 110 ou 120 euros. 12 fois 9, 100 euros quoi, 100
euros.
Au lieu de là, 100 euros, voilà, oui. Et s'il faut, sur les 200 euros, suivant la situation, le service social rajoute une couche. Voilà. Suivant les critères, etc. Mais c'est net encore à côté. Je veux dire qu'il y a des séjours de 12 jours qui peuvent coûter 80-90 euros. Quoi. Quand on a toutes les conditions,
parce que c'est elle, beaucoup, parce que la CAF n'a pas trop.
Ah ben, oui, mais la CAF, oui, mais non, la CAF, il donne 100 euros pour Maxi. S'il a le maximum, c'est-à-dire les revenus les plus faibles. Bon, ça, c'est le tarif. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On revient à Fabienne.
Alors, je vous propose de passer cette délibération. Elle est. C'est rarement qu'on passe ce genre de délibération. Aujourd'hui, donc, c'est un terrain que la SAFER a présenté. Elle va le proposer à des candidats agriculteurs. S'ils ne trouvent pas de repreneur, à ce moment-là, c'est la commune qui s'engage à racheter la parcelle avec des frais. Donc, le prix est de 12 800 euros hors taxe plus les frais de la SAFER.
Alors, je vous rappelle la manif, on a fait une convention avec la SAFER. La SAFER n'a pratiquement plus de sous et ne peut donc plus intervenir dans des rachats de terres agricoles, ce qui fait qu'on s'aperçoit régulièrement, même sur le bon coin, que des zones agricoles, etc., partent sur le bon coin à des tarifs largement au-delà du tarif agricole, pour peu qu'il y ait un petit cabanon ou quoi, c'est vendu comme une maison, comme tout ce qu'on veut. Comme on veut s'opposer à ce genre d'opération dans notre colline ou dans les zones agricoles, on a fait une convention avec la SAFER où d'abord on travaille en collaboration et s'ils n'ont pas les sous, s'ils font partie, c'est nous qui rachetons pour bloquer le bien qui ne sorte pas de son. Que le terrain ne sorte pas de son utilisation normale. La convention qu'on a avec la SAFER. Donc la SAFER propose à des agriculteurs, c'est évidemment la priorité. S'il y a des agriculteurs qui veulent agrandir leur domaine, enfin, s'il n'y a personne, c'est nous qui nous mettons en opération pour pas que ça parte, comme on l'a vu, comme on le voit encore un peu. Voilà, donc là, on est dans une opération où on s'engage vis-à-vis de la SAFER, que s'il y a une personne, on sera là.
Sachant qu'en général, ils ont déjà des candidats.
La seule remarque que je voudrais, c'est que c'est très difficile de savoir où je suis.
Non mais vous le positionnez quand même. Hein? Vous le positionnez au bord de la route. Vous avez internet. Cadastre.fr, vous cliquez un numéro de parcelle, vous avez exactement le lieu.
Merci.
Mais vous auriez pu venir avant le conseil, on vous aurait mené sur place.
Un document de plus clair,
Là, on sera plus zoomé si vous préférez. Pas plus clair, mais plus zoomé.
Mais là, le but d'avoir quand même le centre-ville était intéressant pour vous situer. Et voilà, parce que sinon, si on n'avait mis que ça, je vous mets, ça aurait été encore plus clair.
C'est une heure de session, ça suffit. Hein.
Allez, qui compte
voilà.
Mais on n'a pas les mêmes références que vous, on ne passe pas obligatoirement.
C'est
M.
Bartoli qui parle.
Pas toujours les mêmes références que M. Gérard Bartoli. Donc, qui compte, qui s'abstient. Merci. Alors, c'est moi. C'est quoi ?
C'est la motion que vous avez votée à l'Union des
Maires. Oui, l'Union des Maires. Bon, ben, vous savez, toutes les difficultés qu'on a et toute l'aide que nous apporte l'Union des Maires, donc je vous propose qu'on soutienne ce que nous disons à longueur de journée. Que dit l'Union des Maires au niveau national et au niveau local? C'est que ce que je disais tout à l'heure, on va dans le mur et c'est plus possible. Alors, le président national, Barouin, merci, voilà. J'étais pas loin. Va venir dans les Bouches-du-Rhône rencontrer les maires, je pense, avant l'été. Voilà, donc sur le plan national, ils ont voté cette motion et demande à bien chacun de le reprendre. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à ce que vous le repreniez. Enfin, pas dissipé, mais quelque chose qui vous choque dans cette motion. Rien. Donc je considère que ça vaut approbation. Merci. Alors, appel d'offres.
C'est vous aussi.
Les denrées cantines. Nous avons une commission l'autre jour, on a beaucoup discuté sur tout un tas d'éléments, la manière de se faire livrer, etc., etc. On mange beaucoup plus de légumes que ce qui était prévu. On n'avait pas totalement estimé la quantité de légumes qu'on consommait à la cantine. On était donc arrivé à la fin de notre convention avec, Canavel. C'était Canavel. Donc, on a eu trois réponses. Une assez chère dans le local. Les deux autres, et comme Canavès a priori on avait déjà donné, on s'est rabattu sur Pavona qui était en plus le moins disant. Il y a eu un long débat sur la capacité ou pas d'acheter du local, du bio, et voilà, c'est compliqué techniquement et juridiquement. Donc on vous propose, la commission d'appel d'offres à l'unanimité vous propose on verra pour un an, on verra si on reconduit. De traiter avec Pomona.
C'est Pomona.
Ah, je me disais bien Pomona, mais j'ai écrit Pomona, moi. C'est pour ça que j'ai dit Pomona. Mais je lisais ça, là. Quand j'ai lisé ça, j'avais Pomona, après j'ai dit bon, le nom, c'est bien Pomona. Voilà, pour une tranche, et pareil, le mini, c'est pas 6 000 euros, c'est 10 000.
Ouais, c'est 10 000 euros.
Il y a vos secrétaires qui boivent plutôt au café, là. Hein. Il va falloir que qu'elle zappe les copies collées. Hein. Donc c'est bien de 10 000 à 40 000.
Exactement.
Voilà. Des questions ? Ce rayon où il était, il n'y en a pas ? Qui compte ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, la dernière modif, garantie d'emprunt. Ah ouais ! Monsieur Perronnet qui est allé rediscuter avec la banque de l'ASA. Il y en a quand même sur les subventions, on est quand même au sous. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop négocié eux, parce que de toute façon, on leur paye les intérêts.
On
ne
va pas le dire comme ça. Voilà, la dernière fois, donc, effectivement, au mois d'avril, on a passé la délibération pour la garantie d'emprunt auprès de l'ASA sur l'emprunt de 70 000 euros qui s'est négocié. Lorsqu'on l'a passé, on ne voulait pas mettre en difficulté l'ASA qui avait quand même des problèmes de trésorerie parce que les travaux étaient quasiment terminés. Donc d'ailleurs, on a débloqué la subvention à l'ASA pour ne pas les mettre en difficulté. Néanmoins, là, on avait trouvé que la démarche de la société marseillaise était un peu exagérée de faire un tour à 3,91. L'argument de la Marseillaise, c'était de dire que c'était difficile de coûter aux ASA. L'argument ne tient pas à la mesure où la caution, c'est la mairie qui la porte. Donc on a demandé à l'ASA de rediscuter avec la société marseillaise de crédit, qui est revenue cette banque à des choses un peu plus raisonnables, puisqu'on a un taux de 2,75.
au lieu de 3,91 sur la, la totalité de la période, ça fait une économie de 5 600 euros sur l'ensemble de 12 années. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, on a remercié la ZAD d'avoir fait l'effort et on vous demande donc de prendre la délibe modificative pour que le maire puisse signer la garantie de l'emprunt.
Des questions ? Il n'y en a pas, donc approbation. Et je crois que c'est. Ne le prenez pas mal. Je crois que c'est le premier conseil, on a des votes unanimes sur tout, y compris sur des votes budgétaires. Ne vous sentez pas obligé de passer votre travail la prochaine fois. Hein. Vous avez vu, j'en parle parce que c'était une des raisons qui trouvait que notre budget était intéressant sur les rythmes scolaires. Vous avez vu que ce que je disais, c'est que les maires, ils n'ont aucun pouvoir questionner les conseils de payer le personnel de tout le machin. Mais on s'est encore fait toquer une deuxième fois pour des questions de vote. On a eu une réunion avec 30-40 parents d'élèves, pas plus. Ça a pas eu l'air de beaucoup les perturber. C'est le problème, hein, s'ils viennent nous voir pour nous dire « vous ne faites pas des vrais TAP », alors bon, écoutez, nous on a fait tout ce qu'il fallait, les enseignants largement ont voté contre, une association a voté contre, donc vous voyez, sur ce qu'on était contre, nous on a prévu le budget de tout ce machin, et le recteur nous dit, malgré l'avis du ministre, je pense que le ministre a poussé sur les TAP, bon, c'est le but de la loi, le recteur il a dit « non, non, vous ne faites pas, vous êtes chose, voilà. » Mais bon, on ne va pas refaire la liste.
Je vous en parle, juste une question. Le TAP que vous envisagez, c'est le mercredi matin ?
Non, c'était les mardis après-midi et jeudi après-midi. C'est vrai, TAP. Le tableau ? Non, mais si, ben voilà. Non, c'est vrai, TAP, pendant, c'est comme la loi privée, le souhaitait, quoi. Hein. Et comme on s'était engagé pendant la campagne électorale sur l'année d'avant, ça m'avait été toqué, là, cette fois par Salom, par l'Académie Salom. Là, on est revenu à la charge avec l'accord de l'Académie Salom et c'est le recteur qui nous a toqué. Les enseignants, certains, nous ont pas beaucoup aidé, je le dis de manière très simple. Les enseignants de grands élèves n'ont pas trop suivi également leur mandat qui, à 72%, souhaitait caper. Mais c'est mon débat. Et le débat, il est plus autour de cette table. Hein. On a fait ce qu'il fallait. Reste une question sur les décisions municipales que j'ai terminé à prendre dans la période sous la contrainte. Alors j'ai vu Jésus pour la façade de l'église. On a un petit c'est une ACRL de Jésus. On a acheté, on a renouvelé ou acheté la distribution de boissons d'eau chaude aux ateliers Françoise et Michel Pandolfi. D'eau fraîche, ouais, le truc d'eau fraîche, ouais, le truc d'eau fraîche. Ben, moi, il y a boisson au chaud, hein, boisson mixte. Approbation de la convention avec Aix pour la formation, sa direction collective de mineurs. On a été en justice pour une affaire d'urbanisme. On a approuvé le contrat.
Non, c'est-à-dire que nous avons préempté ce terrain. Et le notaire a passé quand même la vente. Ouais. Donc, on est obligé de se pourvoir pour pouvoir qu'on.
Voilà. C'est un terrain commun.
Non, c'était un terrain agricole et naturel qu'on avait préempté, nous, dans les temps et tout, mais le notaire a quand même passé la vente avec le propriétaire. Et donc, du coup, maintenant, le propriétaire nous met en justice.
Non, pas le propriétaire.
C'est où?
C'est la
et il y a aussi Mme Gantini qui veut qu'on se
décide. Ouais, bah, c'est-à-dire que je pense qu'il y a même personne de plus avec
voilà.
Avec nous. Hein. Et nous, on a acheté auprès des domaines. Des logiciels pour les services techniques. La pose de jeux d'enfants sur le forage, c'est un appel d'offres qu'on a passé il y a deux mois.
Enfin.
Une convention avec Troupe La Fontaine pour leur festival. Et la reconduction du contrat d'hébergement pour la société CIGEC, je ne sais pas ce que c'est, ça portail familial. C'est informatique du SMEC. C'est le paiement informatique du SMEC. Voilà, pas de questions diverses. Merci. Vous avez tous signé l'acte de présentation.